Comment s'est opérée votre rencontre avec L'étranger de Camus? Quand, comment avez-vous découvert ce livre? Quand l'avez-vous lu la première fois? Racontez-nous ça.
Je pense que je l'ai lu la première fois à l'âge de 18 ans, peut-être, probablement. Enfin, j'avais commencé par découvrir une biographie sur Camus. Il y en a de très bonnes. Donc, c'est à partir des biographies que j'ai commencé à lire. Mais L'étranger n'était pas le premier ouvrage de Camus que j'avais lu. C'était L'homme décisif, L'homme révolté par la suite. C'était cet aspect-là philosophique qui m'avait fasciné parce que je venais de sortir d'une longue période religieuse. Et donc, c'était d'abord des lectures sur une philosophie et sur cette façon qu'avait Camus de démanteler le mythe, de le déstructurer, de le relire. Donc, L'étranger n'était pas ma première lecture. Donc, c'est venu après 18-19 ans, je pense, que j'avais lu pour la première fois L'étranger. J'étais, comme beaucoup de gens, irrité par la sécheresse du style, mais en même temps fasciné par la précision du style.
Et alors, est-ce que d'emblée, cette espèce d'angle mort, sans jeu de mots, qui est dans L'étranger et que vous allez exploiter dans ce livre, est-ce qu'elle s'est imposée à vous? Est-ce que vous l'avez relevée?
Je dirais que ce n'est pas un angle mort, c'est un angle assassiné.
Mais il est mort, au final.
Oui, mais assassiné. Mais en même temps, non, ça ne m'a pas frappé. Vous savez, quand on lit une histoire, on y est. On y est sans jugement. Je veux dire, on lit une histoire de cosmonaute quand on est jeune, d'aviateur, mais c'est à partir de 20 ans qu'on comprend qu'on ne pourra jamais être cosmonaute parce qu'on est algérien et arabe. Et donc, c'est pas la même chose. On a plus de sympathie, de regard et de compréhension pour le personnage du meurtrier. L'arabe est un accident. Cette relecture, par la suite, elle n'est venue que des années plus tard.
Justement, elle est venue comment? Est-ce qu'elle est venue de par vous-même ou par des influences extérieures, des discussions, des conversations, des échanges avec d'autres lecteurs ou exégètes de Camus?
Non, je ne suis pas camusien, je ne voudrais pas l'être. D'ailleurs, les sectaires m'agacent. Je veux dire, autour de Camus, quand même, il y a un temple, il y a des religieux. C'est une religion sans Dieu, mais c'est une religion véritable. Il y a des pèlerinages camusiens. C'est une vraie religion. Donc moi, je suis pas là-dedans. Donc l'idée, elle est venue, comme je le répète souvent maintenant, par agacement. C'est-à-dire, je voyais que Camus était objet de malaise, objet de polémique, objet de rejet, objet d'exil, de fascination. Et donc je voulais un petit peu parler de Camus à ma manière. Et l'idée, elle est venue, bon, tout à fait, je dirais accidentellement, mais elle est née comme ça. Je suis journaliste, j'écris des chroniques. Et la plupart des idées viennent comme ça. Je ne les pense pas, je les écoute.
Mais alors, est-ce que ça veut dire cette occultation comme ça de l'identité de la victime dans L'étranger? Est-ce que ça veut dire que Camus, finalement, était un colonialiste à son insu, imprégné par son époque, par les mentalités de l'époque?
Je ne sais pas, il y a eu quand même 50 ans de réponses autour de cette question. Je ne sais pas si je dois...
Mais quelle est la vôtre?
Écoutez, j'ai écrit cet ouvrage pas pour combler un vide uniquement, pas pour faire le procès de Camus, parce que moi, je ne refais pas la guerre d'Algérie, je n'ai pas envie de retomber dans le... D'ailleurs, c'est ce qui m'a agacé au début, c'est qu'on avait réduit le terrible génie de cet homme, sa façon d'interroger la condition humaine, on l'a réduite à une affaire de notaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est algérien? On a réduit tout le génie à quelque chose de vraiment très petit. Et moi, Camus, pour moi, ça reste quelqu'un, un interrogateur du monde. C'est en ceci qui m'a intéressé à l'âge de 18-20 ans. Le reste ne me concernait pas et ne m'interpellait pas. Je ne vais pas jeter la période coloniale, c'est-à-dire j'en suis le petit enfant ou l'enfant, mais en même temps, je ne vais pas la porter sur mon dos toute ma vie. Donc, je ne juge pas Camus. Et en même temps, ce n'est pas un roman qui est écrit sur Camus ou sur L'étranger, mais c'est à partir de Camus, à partir de L'étranger. Parce que je le répète encore et encore. Chaque fois, je dis à beaucoup de gens, dans cette histoire, il y a quatre personnages. Il y a Camus, il y a Meursault, il y a Moussa qui est mon personnage, et il y a moi. Les trois sont morts. Moi, je suis vivant.
Ah, Haroun, c'est vous?
Non.
Donc, si je vous comprends bien, c'est redonner comme ça une identité à la victime de l'étranger. C'est plus un geste, une intention littéraire que politique ou militante.
Vous savez, quand on est algérien ou français, on ne peut lire L'étranger de Camus ou ce roman-là que d'une certaine façon. On ne peut pas y échapper. Mais bon, le reste de l'humanité existe. Donc, ils vont le lire autrement. Donc, il n'y avait pas d'intention politique ou de quoi que ce soit. J'ai essayé d'écrire une histoire qui a du sens et qui a la dignité de poser des questions. C'est une histoire de salut. Tout mon personnage, c'est quelqu'un qui défend sa liberté contre sa mère, contre l'histoire, contre la FLN, contre la mort, contre son propre frère, contre le meurtrier. C'est une histoire de liberté. Et il la défend surtout et profondément contre Dieu. Parce que ce qui m'avait bouleversé, pour revenir à L'étranger de Camus à l'époque, ce n'était pas toute l'histoire. C'était vraiment les 4 ou 5 dernières pages. Cette colère qu'avait Meursault face au prêtre.
Vous, vous imaginez la même chose, mais avec un imam.
Je n'imagine pas, je vis la même chose.
On va revenir sur, évidemment, la religion qui est au cœur de ce livre. Alors, évidemment, il y avait une difficulté, c'est que, puisque si on voulait ressusciter, enfin, en tout cas, redonner une identité à cette victime, par définition, il n'était plus là. Il fallait donc trouver un intermédiaire. C'est ce personnage du frère, donc d'Haroun. Vous l'avez chopé, si je puis dire, immédiatement?
Je ne sais pas, c'est une voix. Donc, c'est une voix. Je vous ai dit au début comment j'écoute, je ne pense pas. Il ne pouvait être, c'est un personnage nécessaire, il ne pouvait être qu'ainsi. C'est-à-dire fabulateur, avec une propension à la mise en scène, à la théâtralisation, parce qu'il voulait compenser une sorte d'anonymat absolu. Il est menteur aussi, il est coupable, il est meurtrier. Et je le voulais de cette génération qui tend à disparaître en Algérie, cette génération de gens qui sont désenchantés et conscients à la fois, qui sont dans un rapport de rejet vis-à-vis du colonialisme, mais qui sont dans un rapport de désenchantement absolu vis-à-vis de l'indépendance. Je le voulais comme le prophète Jérémie, vraiment quelqu'un qui jeûne, qui est dans la jérémiade, mais sans divinité.
Alors, c'est un jeu de pistes littéraires aussi formidable, puisque vous multipliez les références au livre Matrice, j'allais dire. Il y a des clins d'œil, des allusions, du pastiche, parfois des détournements ou des citations. Ça doit être jubilatoire pour vous.
Tout à fait. Pour moi, l'écriture est ludique, autant dans la chronique journalistique que dans le... Je ne pense pas qu'on puisse construire du sens sans deux choses, le plaisir ou le désir et le style. Je pense que c'est vrai que j'ai apprécié écrire ce livre-là. Et je pense que l'écriture, la littérature devrait aussi être un jeu de pistes. Un jeu de pistes, un jeu d'énigmes, un jeu d'allusions, parfois lourdes, parfois très subtiles. Elle devrait être aussi un plaisir pour inspirer le désir, justement. Si on n'écrit pas sous des instruments jubilatoires dans sa tête, on ne peut pas inspirer le plaisir de lire si on ne va pas dans le désir d'écrire, je veux dire. C'est lié, c'est assez bateau comme explication, mais croyez-moi, c'est très lié. J'aime écrire en même temps que jouir de cette écriture. J'aime qu'elle soit ludique, qu'elle soit un jeu, mais que ce ne soit pas un jeu formel uniquement, mais que ça fasse sens.
Alors votre incipit aujourd'hui, Ma, est encore vivante. C'est une allusion lourde ou subtile?
Ce n'est pas une allusion, c'est une façon de regarder Meursault dans les yeux et de répondre. Ah. Je voulais que l'incipit de Camus est extraordinaire, il est resté dans l'histoire. Je voulais que le mien soit aussi provocateur, aussi énigmatique, et qu'il puisse à lui tout seul représenter tout le roman.
Mais est-ce qu'on n'est pas écrasé? Enfin voilà, vous jouez avec ce texte qui est devenu aujourd'hui quelque chose de sacré dans les littératures françaises. Est-ce qu'on n'est pas écrasé par ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire parfois, mais de quel droit? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
J'ai une légitimité, elle est par défaut. C'est celle du survivant. C'est celle qui est vivant maintenant, qui doit trouver des réponses. Je pense que c'est une légitimité largement suffisante. J'ai une autre légitimité, c'est que je suis né bien longtemps après l'indépendance et j'ai le droit de trouver une fin heureuse à une histoire. J'ai une autre légitimité, c'est que je suis concerné. Mais en même temps, il y avait aussi ce sentiment, j'aime pas être écrasé, mais il y avait quand même un défi à relever. Donc là, l'équation était très simple. Je pouvais raconter ce que je voulais, parce que c'était moi le vivant. Mais en même temps, il fallait que je trouve un style qui puisse regarder le style de Camus dans les yeux. Donc l'enjeu était stylistique, l'enjeu était celui de la langue, l'enjeu était celui de la précision et de la pureté de la langue. C'est cela l'enjeu. Je suis resté moi-même, mais en même temps, il fallait un travail de rigueur, parce que moi, ce que j'admirais dans le style de Camus, c'est son économie absolue. Donc il fallait peut-être être dans ça. Mais je ne voulais pas être dans le mimétisme aussi. Ça ne m'intéressait pas d'imiter Camus, ça m'intéressait d'être moi-même. Donc c'est vrai, il y a eu beaucoup de travail sur le style, il fallait alléger au maximum. Je voulais un roman très sobre, je voulais de l'os.
Alors il y a un renversement assez subtil dans le livre, c'est que le narrateur au début, là, le frère de la victime, Haroun, est plutôt hostile au personnage de l'étranger. Et puis à un moment donné, lui-même, on ne va pas tout dévoiler, mais va tuer. Et à partir de ce moment-là, on constate un phénomène d'identification avec l'étranger, le personnage de l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce basculement?
Je ne pense pas que je voulais dire quelque chose sciemment, je veux dire, consciemment. Je pense qu'il y a une nécessité psychologique chez le personnage. Quand vous avez votre personnage, il impose lui-même sa propre évolution. Mais en même temps, c'est après que j'ai relu, finalement, ce personnage-là, il représente une sorte de... C'est vrai ce que vous dites. Il se sent beaucoup plus proche du meurtrier que du mort. Et c'est ce qui fait, ce qui explique un petit peu sa double colère. Au début, il est en colère contre celui qui a tué son frère, mais il se ment, il ment. Peu à peu, il finit par avouer et s'avouer surtout qu'il ressemble beaucoup plus. Il a du sens à ressembler au meurtrier qu'au mort. Parce que finalement, le mort, il lui a volé sa vie. Tout le temps, on lui reprochait d'être un survivant plutôt, et de ne pas être mort comme son frère. Donc oui, oui, à la fin, il se retrouve piégé, il se retrouve... Mais ce n'était pas une construction, disons, totalement consciente, je veux dire.
Vous ne l'aviez pas d'emblée ?
Non, non, je n'écris pas comme ça. Finalement, je ne suis pas un écrivain, je suis un grand relecteur. J'aime bien imaginer les livres qui n'existent pas. J'ai toujours fonctionné sur le fantasme du livre. Dernièrement, j'ai lu une phrase de Borges qui est magnifique, qui m'a ébloui. Il disait que tout livre est considéré comme incomplet s'il ne contient pas en lui-même son contre-livre. Et je trouve que c'est absolument ça. Quand j'étais enfant, j'ai découvert la langue française par le désir et la frustration. J'avais pas assez de livres. Et je me rappelle à l'époque, je lisais ce qu'il y avait à la fin. Vous savez, le désapparu. Et j'imaginais des histoires à partir des titres des autres. Et ça m'est resté cette envie de réécrire les livres que je n'ai pas pu lire au bon moment.
La langue française, vous venez de l'évoquer. Comment vous définiriez votre relation à cette langue aujourd'hui? À un moment donné, vous utilisez la formule « c'est un bien vacant ». Puisque, bon, on le sait, il y a eu l'arabisation, l'enseignement, etc. en Algérie, que la langue française s'est diluée dans le pays tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose dont il faut un bien vacant. Il est fait là pour être... Il faut s'en emparer.
Je me suis emparé de cette langue. En même temps, j'ai un rapport très passionnel avec cette langue, dans le sens où c'est pas que je l'aime, j'aime ce qu'elle raconte. Alors, autant que pour les générations précédentes, celles qui m'ont précédé, la langue française était la langue de la domination, de la puissance coloniale, etc. Et l'arabe était la langue du repli, la langue interdite. Les enfants de ma génération, on a inversé. C'est-à-dire, à l'école, j'avais l'arabe comme langue d'autorité, de frustration et d'interdit. Je rentrais chez moi, je prenais des romans, je lisais, et le français, c'était la langue de l'imaginaire, de la sexualité, de la clandestinité et de l'espace. C'est une langue qui m'a ouvert le monde et surtout le désir. J'ai commencé à lire, à la limite, j'ai commencé à apprendre cette langue en autodidacte. Ce n'est pas à l'école. Et les mots se définissaient les uns les autres par rapport à moi. J'ai mis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour comprendre les mots sans dictionnaire. Et donc, c'était des mots qui s'éclairaient les uns les autres. J'ai construit ma propre langue.
Alors, il y a un autre aspect dans le livre et qui est très, très important, bien sûr, c'est que Haroun va évoquer aussi l'histoire des 50 dernières années de l'Algérie. Évidemment, son regard est très critique. Vous l'avez déjà évoqué au début de cette conversation. Il est complètement rétif à toute la mythologie sur la lutte pour l'indépendance. Il revendique aussi son impiété. J'allais dire, il y a deux livres en un. Il y a ce dont on parle depuis le début, cette relecture en quelque sorte, de Camus et de l'étranger. Et puis, quelque part, niché dans ce livre, il y a une espèce de pamphlet contre l'Algérie d'aujourd'hui.
Oui, mais ce n'est pas uniquement la condition algérienne, c'est la condition humaine du personnage. Il est face à un dieu et il vit dans un pays qui se raconte une histoire aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est en révolte contre un double récit, contre le récit sur la mort de son frère. Donc, c'est un récit consacré. Un des aspects les plus tragiques de ce personnage, lorsqu'il découvre à l'indépendance, parce que le livre de Camus a été rendu célèbre, il découvre que tout le monde connaît l'histoire, sauf lui et sa mère. Il se découvre le dindon d'une farce, il dit, elle est mondiale. Tout le monde connaissait l'histoire de l'étranger, sauf moi et ma mère. Donc il y a une révolte contre ce récit, mais en même temps, une révolte contre l'autre récit. C'est le récit hagiographique, le récit mythologisé sur ce qui s'est passé durant la guerre. Mais en même temps, le récit aussi céleste, contre le récit coranique, contre le récit de Dieu. C'est quelqu'un qui veut imposer un autre texte. Donc, c'est vrai, il y a un contre-livre dans le contre-livre.
J'ai horreur des religions, toutes, dit Haroun. Et qui, en plus, va choisir, était l'espèce de pilier de bistrot, va dans l'un des derniers cafés où on peut encore consommer de l'alcool. Et donc, là aussi, entre les lignes, l'air de rien, il y a, vous tenez un discours très, très virulent à l'égard de cette Algérie qui, finalement, aurait cédé aux religieux aujourd'hui.
Oui, il dit qu'il a horreur des religions, mais en même temps, j'ajoute que c'est pour lui, si je me rappelle bien de la phrase, il dit que les religions sont un transport en commun et qu'il préfère aller vers Dieu à pied, tout seul. Ça résume vraiment ce que je pense et ce qu'il pense peut-être, dans le sens où la religion, c'est une quête individuelle. je cherche l'esprit, mais je ne veux pas qu'on me le fourgue avant que je commence à le chercher. La religion, je pense que c'est un très grand problème en Algérie, mais aussi dans le monde arabe. Je pense que c'est le nœud gordien du monde arabe. Si on n'arrive pas à le trancher, on n'avancera pas. On ne fera pas grand-chose.
Donc vous êtes sur les listes du Renaudot et du Goncourt, les deux récompenses suprêmes littéraires en France. Comment vous recevez cette double sélection?
C'est toujours gratifiant de voir que ça donne du sens au travail, ça donne de la confiance en soi aussi, surtout, qui est nécessaire pour pouvoir... Je suis quelqu'un qui écrit toujours dans le doute. Donc, un prix, deux prix, trois prix, c'est toujours gratifiant. Ça donne de la confiance, je me répète. Mais en même temps, ça ouvre des perspectives. Et puis, franchement, ça me fait aussi découvrir un petit peu toute l'industrie des prix en France, que je ne connaissais pas. Mais en même temps, ça provoque des polémiques en Algérie.
Ah oui, lesquelles?
Les mêmes, c'est-à-dire on a autant des gens qui saluent, qui encouragent, qui sont fiers, que d'autres qui disent que parce que vous êtes islamophobe, donc on vous récompense, parce que vous êtes qui veut plaire à la France. Bon, ça c'est les vieilles marmites, je veux dire, avec des vieilles, très vieilles soupes. Et ça fait partie un petit peu de la facture à payer.
Mais vous justement, vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu sur cette forme de reconnaissance, donc cette double sélection? Est-ce que ça n'est peut-être pas uniquement par des critères ou des raisons purement littéraires qu'on a retenu votre livre, ou pour des raisons comme celles que vous venez d'évoquer, peut-être plus politiques ou...
Et ça, c'est comme de l'histoire d'amour, on se pose toujours la question pourquoi elle m'aime.
Mais l'essentiel, c'est qu'elle...
Exactement.
Qu'elle aime.
Exactement.
Est-ce qu'on se prend au jeu? Est-ce qu'on finit ou on commence à y croire? Ou est-ce que vous gardez une discipline, forme de distance
Non, j'ai une discipline que j'observe depuis toujours. Moi, je fonctionne avec une petite formule dans ma tête. Moi, je crois que la vanité, elle tue le talent. Donc, je préfère garder vraiment la tête froide. Pas parce que c'est une position éthique un peu noble, mais parce que c'est une nécessité.